Sajid Azouari, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes architecte blockchain. Nous sommes avec vous pour parler justement de ce sujet. Il y a d'autres femmes ici présentes. La blockchain, on en parle de plus en plus. Il faut être clair, entre nous, on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut qualifier simplement la blockchain? Qu'est-ce que c'est la blockchain?
La blockchain, c'est une technologie qui va nous permettre de faire collaborer plusieurs acteurs qui, à la base, ne sont pas forcément en confiance ou qui même ont des business qui sont concurrents. Et on se dit que si on arrive à les faire collaborer autour d'un nouveau service qui est à la fois basé sur du partage d'informations tout en respectant la confidentialité de leurs données, et notamment des données sensibles comme leurs données clients ou même leurs chiffres d'affaires, etc. Mais qu'ils savent très bien que tous ensemble, ils peuvent créer une valeur ajoutée, eh bien on aura réussi à créer une nouvelle génération de services et d'applications.
Est-ce qu'on peut dire que la numérisation des entreprises numériques a amené justement ces nouvelles technologies à prendre leur importance? Parce que c'est vrai que toutes les entreprises aujourd'hui
sont... Je suis pas
sûr. Non,
non, je pense que il y a encore pas mal de travail à faire en termes de transformation digitale. Je pense que c'est un peu l'inverse. Peut-être qu'en voyant la valeur ajoutée de ces technologies-là, ça va accélérer la numérisation qui est actuellement en cours au sein des entreprises.
C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on parle à un dirigeant de petite, moyenne entreprise, il voit pas toujours l'intérêt, par exemple, de la transformation numérique. Il voit le coût initial. Quand on parle de blockchain, en disant, tiens, vous devriez, dans votre secteur, vous intéresser à la blockchain. Qu'est-ce qu'on lui dit?
C'est comme pour tout, il y a un investissement de départ qui est conséquent, notamment en termes de réflexion, parce qu'on est en train d'imaginer des nouveaux modèles, de remise en question, parce que parfois ça va pousser l'entreprise à se repositionner au niveau de sa chaîne de valeur, ce qui peut être inconfortable, mais qui, si c'est bien fait, peut amener de nouveaux business.
Sur la blockchain, on parle aussi des tokens.
Mmh.
Tokens, alors en français les jetons, mais bon, un jeton, voilà, on sait, quand on est petit, on est content d'avoir un jeton pour le manège. Aujourd'hui, on a du mal à se représenter. Qu'est-ce que c'est que ces jetons, ces entreprises qui, à travers la blockchain, proposent des jetons?
Qu'est-ce qu'un token?
Bah oui.
Bah, plein de choses. Un token, ça peut représenter une ressource physique, ça peut représenter une ressource abstraite, ça peut représenter du temps, ça peut représenter de l'énergie, ça peut représenter un accès à un lieu ou à une information, ça peut représenter de la valeur, donc comme ce qu'on est en train de voir principalement aujourd'hui avec les crypto-monnaies. Et puis on a tout ce qui est non-fungible token qui est très intéressant, où ça représente un objet en fait unique. Donc pour tout ce qui est... pour les collectionneurs, par exemple, et puis pour tous les marchés où il y a ce concept de collection, un token, c'est très intéressant. Je ne vais pas donner l'exemple de CryptoKitties parce que ce n'est pas forcément celui qui démontre le mieux là où le token peut nous emmener en termes de crypto-économie. Mais les CryptoKitties, c'est avoir son chaton virtuel sur la blockchain.
Oui, alors
qui se vendent à plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc.
Oui, alors ça fait partie des choses. Les gens connaissent peut-être plus aujourd'hui, par exemple, le Bitcoin.
Ouais.
Il y a même des étudiants qui ont investi. Donc il y a des gens qui sont pas spécialistes de ce type de technologie, mais qui se sont dit, tiens, je vais aller voir. Les dangers qu'il y a quand même derrière aujourd'hui, on en est au début, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a quand même des dangers. Et sur les monnaies, on sait qu'on peut perdre de l'argent, par exemple.
Oui, il y a clairement des dangers. En fait, moi, j'ai fait partie de la communauté française autour des blockchains et des crypto-monnaies assez tôt. Un des premiers problèmes qu'on a eu, c'est les scams. Et les gens qui utilisent la faible connaissance d'autres personnes, qui l'exploitent pour leur vendre des projets et des profits mirobolants, alors que c'est pas le cas. Donc on a deux problèmes, des scammers, donc des escrocs qui montent en compétence et qui ont une super force de frappe en termes de marketing, et de l'autre côté un fossé au niveau des personnes comme nous, quoi, qui ont juste peut-être envie d'arrondir leur fin de mois. Et donc quand les deux se rencontrent, ça fait des histoires assez tragiques. Et comme j'étais à Kigali au Rwanda récemment, et je discutais avec quelqu'un de mon hôtel, mais c'était vraiment par hasard, et rapidement il a commencé à me parler de OneCoin. Donc OneCoin qui est un scam très fameux, je peux le dire, maintenant qui a été dénoncé plusieurs fois, et qui me disait qu'un de ses amis avait dépensé beaucoup de son argent dedans et que lui-même prévoyait de vendre sa maison. Donc ça m'a fait vraiment drôle d'entendre ça, et on parle de vrais gens avec leur vraie vie qui vont perdre tout leur argent dans des scams. Donc oui, il y a des choses qui font peur. Maintenant, il y a énormément d'opportunités et il ne suffit pas de grand chose en fait pour saisir ces opportunités là. Il suffit de venir à des meet-up comme celui-ci, de venir parler à des gens de la communauté. En fait, il faut tout simplement mettre en avant les relations humaines et aller voir les vrais experts et non pas ceux qui ont vraiment quelque chose derrière la tête ou qui essayent de vendre leur propre service.
Voilà, on pourrait faire un parallèle avec l'investissement, par exemple, qu'on connaît bien ici en action.
Ouais,
on sait très bien qu'on n'investit pas dans une entreprise sans connaître l'entreprise, sans connaître ce qu'elle
fait. Faire du diligence, et, faire des recherches.
Et faire des éléments. Et finalement, on trouve ça. Là, il y a une nouvelle technologie. Alors, c'est vrai qu'il y a eu, on l'a bien vu, par exemple, sur le Bitcoin qui est le plus connu, un espèce d'appât du gain, voilà, très très vite. Personne ne la connaissait il y a quelques années.
C'est le jeu.
Voilà, oui, c'est le jeu.
Nous, on l'approche de manière très neutre, c'est-à-dire que tu joues, tu perds, mais c'est ton choix. Donc, il y a des règles assez simples, que ce soit pour les actions, c'est pareil pour la crypto-monnaie qui revient à faire une enquête, à discuter avec des gens, à vérifier. Si les gens ne font pas ça parce qu'ils sont trop attirés par la spéculation, trop attirés par ce qu'on appelle le greed, tant pis pour eux quelque part.
Vous êtes, vous donc, vous avez déjà maintenant cette expertise, cette expérience des années de pratique. Les femmes justement qui abordent aujourd'hui ce sujet, quels conseils vous leur donneriez pour justement prendre connaissance de tout cet univers?
Comme je le disais, et d'ailleurs ça vaut aussi bien pour les hommes, mais donc pour parler des femmes, je pense qu'on a un travail à faire en termes d'autocensure. Donc de se dire que plutôt que de passer une soirée chez soi, on peut aussi venir sur le toit de la Cité de la Mode et venir discuter avec d'autres femmes ou hommes qui s'y connaissent. Donc il y a peut-être cette petite étape-là qu'il faudrait réussir à enclencher et créer des espaces où les débutantes et débutants se sentent à l'aise pour venir poser leurs questions, parce qu'on a un côté... on en fait partie. Moi, je suis vraiment du milieu technique. Et ce qu'on voit, c'est pareil dans les conférences scientifiques, c'est pareil dans les rencontres d'experts. Il y a ce côté, pas élitiste, mais on a l'impression que si on n'a pas compris, on ne peut pas trop poser de questions. Et ça, c'est nocif, mais complètement nocif pour l'adoption de la blockchain, l'adoption des crypto-monnaies. Et c'est vraiment quelque chose contre laquelle il faut lutter si on veut faire évoluer nos technologies. Et d'ailleurs, ça n'a pas de sens parce que les gens qui travaillent là-dessus devraient être plus tournés vers l'adoption puisqu'ils sont en train de créer des technologies pour d'autres personnes. Donc il faut aller vers les utilisateurs. Donc j'aimerais transformer en fait ce cercle, transformer le cercle vicieux en cercle vertueux. Et donc du coup ça passe par l'éducation, les rencontres conviviales, ouvertes aux débutants et qui ne font pas peur. Donc on n'est pas que des geeks dans une cave en train de faire du code. C'est pas ça.
Dernière question, de votre point de vue justement, vous êtes certaine vous que la blockchain, les crypto-monnaies ont un avenir?
Ah oui, c'est certain. C'est certain et je pense qu'il y a plusieurs types de personnes. Il y a ceux qui voient les choses à court terme et ceux qui voient les choses à plus long terme. Et je pense qu'une fois qu'on arrive à se positionner sur une vision long terme, ça enlève pas mal du stress qu'il y a à être dans la blockchain ou dans les cryptos, ce qui est un vrai phénomène dont on rigole beaucoup. J'ai une image en tête justement, on parlait de Black Thursday et qu'on disait que dans les cryptos c'était juste un jeudi normal en fait. Donc c'est vrai que ça peut être très angoissant avec les gens qui vérifient le cours du Bitcoin sur leur montre. Donc il y a tous ces petits phénomènes.
Et j'ai connu ça dans les années 2000.
Non mais en plus l'histoire se répète quelque part. Donc pour ceux qui sont plus jeunes et qui n'ont pas vécu ça, ça peut être nouveau. Donc ils ont aussi besoin de conseils d'autres personnes. Et pour ceux qui sont déjà dans le domaine là, qui profitent de leurs leçons passées pour voir sur le long terme et se positionner judicieusement.
Merci beaucoup Sajid Azouari d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.